Orange, cyber défense.
The cyber threat analyses you need to know about. Cyber decryption. It's now.
Ces informations de dernière minute du mois d'août sont présentées par le Cyber Intelligence Bureau, une division du laboratoire d'épidémiologie d'Orange Cyberdéfense. Les données sont basées sur des discussions collectées et recoupées de divers groupes d'activistes sur des canaux Telegram.
Et ce cadre analytique, c'est vraiment notre seule boussole pour naviguer dans ces données. Parce que il faut voir que les revendications qui pilulent sur ces canaux Telegram, elles sont chargées d'une rhétorique politique hyper incendiaire. Qu'elles soient pro-russes, pro-palestiniennes ou anti-gouvernementales, ça tire dans tous les sens. Donc l'approche ici, elle nous impose une stricte neutralité. L'objectif n'est en aucun cas de valider ou d'invalider le discours politique de ces acteurs. Ce qu'on fait, c'est décortiquer les mécanismes techniques par lesquels le cyberespace se transforme en un miroir opérationnel des tensions physiques.
Mais ce miroir, il semble complètement déformé aujourd'hui. Enfin, historiquement, un conflit diplomatique prenait des mois, voire des années à se matérialiser sur le terrain. Mais en lisant toutes ces notes d'août, on constate que la latence a totalement disparu.
Ah oui, complètement. C'est instantané.
C'est fou. Le conflit impliquant la Russie, l'Ukraine et l'OTAN, c'est vraiment le moteur écrasant des attaques de ce mois. On voit des pays comme l'Allemagne, la Roumanie, la Norvège ou le Canada qui sont pris pour cible de manière quasi systématique. Genre, juste après chaque annonce de soutien logistique à Kiev, bam, une cyberattaque.
Et ça ne se limite pas à ça. Si on regarde bien les données, les tensions au Moyen-Orient déclenchent aussi des vagues de piratage contre des institutions israéliennes au nom de la cause palestinienne.
Ouais, tout est lié, quoi. Et pour couronner le tout, même des débats purement législatifs en Europe, comme le projet de loi européen Chat Control, ça provoque des véritables insurrections numériques. Du coup, je me demande pourquoi cette porosité soudaine entre, disons, une signature de traité sur un bout de papier et une attaque informatique massive.
La réponse, elle réside vraiment dans l'asymétrie de l'orme cybernétique. Déployer des troupes ou imposer des sanctions économiques, ça nécessite une logistique lourde, un consensus politique.
C'est lent, en gros.
Voilà, c'est très lent. Alors que l'outil numérique, lui, il permet une réplique instantanée et surtout très peu coûteuse. Une loi est débattue à Bruxelles, ou bien un contrat militaire est ratifié à Berlin, et littéralement dans les minutes qui suivent, les lignes de code sont compilées pour frapper. La géopolitique, elle s'exécute désormais en temps réel, sur Telegram.
C'est effarant. Et du coup, si on suit cette logique de réplique instantanée, il faut qu'on s'intéresse à l'infrastructure humaine derrière ces claviers. Qui orchestre tout ça? Parce que dans les sources, on a une véritable avalanche de noms de groupes, des noms souvent à consonance anglophone d'ailleurs. On a No Name 05716, Darkstorm Team, Hyder underscore Next, Shadow Clausy 404, Lunaris Sec, Server Killers ou encore Sniper Sec, qu'on désigne souvent sous l'acronyme SPIX.
C'est une belle liste, oui.
N'est-ce pas? Mais en analysant leurs discussions, l'impression qui domine, c'est pas du tout celle d'une rébellion anarchique dans un sous-sol. C'est, on dirait, un marché financier hyper agressif. On lit des annonces de fusion, de mutualisation de ressources, de recrutement. En fait, c'est littéralement le vocabulaire des gros conglomérats d'entreprises.
Et l'analogie est très juste. Ce qui est fascinant ici, c'est que la tendance majeure de ce mois d'août repose justement sur ces alliances opérationnelles stratégiques. Le mythe du hacker solitaire avec sa capuche dans son garage, c'est totalement obsolète.
Ouais, on oublie les films des années 90.
Exactement. Ces acteurs, ils fonctionnent maintenant comme des cartels. Par exemple, quand No Name 5716 annonce publiquement son alliance avec Hyder underscore Next, il s'agit d'une véritable fusion d'infrastructures. Et on voit Darkstorm Team faire la même chose en renouvelant son pacte avec Akatsuki Cyber Team.
Et SPIX s'associe à Infrastructure Destruction Squad, c'est bien ça, hein?
C'est ça. Ils combinent leurs forces.
Mais attends, pourquoi partageraient-ils leurs ressources? Je veux dire, dans l'imaginaire collectif, les pirates informatiques, ils cherchent un peu la gloire individuelle, non? Partager un accès ou un outil super puissant, c'est diluer son propre prestige sur les forums.
C'est là que la dimension géopolitique supplante l'ego personnel. Mener une guerre idéologique à l'échelle d'un continent entier, ça exige une force de frappe massive. Un groupe peut posséder ce qu'on appelle un botnet massif.
Un botnet, c'est-à-dire un réseau d'ordinateurs zombies?
Exactement, un réseau de millions d'ordinateurs infectés qui sont prêts à envoyer des requêtes en même temps. Et un autre groupe, lui, va plutôt exceller dans l'accès initial, donc la capacité à trouver et à fracturer la première petite porte numérique d'une entreprise.
Ah, je vois, ils sont complémentaires.
Voilà. En combinant le volume écrasant de l'un avec la précision chirurgicale de l'autre, ces petits groupuscules se transforment en de véritables armées numériques coordonnées, capables de mener des campagnes sur la durée.
D'accord. Donc ces armées sont formées, elles sont super structurées. Mais alors, la question logique qui suit, c'est comment elles choisissent leur champ de bataille? Parce que quand on regarde les notes, les cibles sont d'une diversité étourdissante. On passe d'un ministère très officiel à une simple boucherie de quartier.
Oui, le grand écart.
Totalement. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Si on décortique les tactiques, il semble y avoir trois méthodologies bien distinctes. Le premier vecteur d'attaque, et de loin le plus fréquent, c'est l'attaque par déni de service distribué, le fameux DDoS. Les sources montrent que le métro de Bucarest, la compagnie ferroviaire roumaine, les bus Conin ou même des aéroports au Japon ont été paralysés de cette façon. Et les institutions gouvernementales, comme les ministères de la Justice ou les cours suprêmes, y passent aussi.
Techniquement, c'est rudimentaire, mais c'est une méthode d'intimidation publique qui est extrêmement visible.
Ouais, c'est bruyant, c'est super visible, ça fait la une des journaux. Mais le deuxième vecteur d'attaque qu'on a identifié, il pose beaucoup plus de questions sur les motivations réelles, je trouve. On parle ici de piratage de systèmes de vidéosurveillance, donc les caméras CCTV et les enregistreurs DVR. Et les cibles sont franchement déroutantes.
Oui, c'est très intrusif.
Bah oui, quel est l'intérêt géopolitique de pirater les caméras de la chaîne de pharmacie Alevia ou d'infiltrer les systèmes de petites maisons de retraite en Roumanie ou même des centrales solaires et une boucherie? S'attaquer à un sous-traitant militaire, on comprend la logique de guerre, mais une boucherie? Et surtout, comment ils accèdent à ces caméras avec autant de facilité?
L'accès technique, il est souvent d'une simplicité alarmante, malheureusement. De très nombreux commerces installent des caméras connectées qui sont bon marché et ils omettent tout simplement de changer les mots de passe configurés en usine. Les fameux.
Les fameux admin-admin.
Exactement. Admin en identifiant, admin en mot de passe. Les activistes, ils utilisent des moteurs de recherche très spécialisés qui scannent tout Internet en permanence à la recherche de ces appareils vulnérables.
Juste en tapant à la porte pour voir si c'est ouvert.
Voilà. Et quant à la motivation, elle est purement psychologique. Évidemment, pirater une boucherie n'a aucune valeur militaire. L'objectif, c'est d'instiller un sentiment d'insécurité permanent au sein de la population civile. C'est un message très clair qui dit « L'État ne peut pas protéger ses immenses infrastructures critiques, mais il ne peut pas non plus protéger votre vie privée au coin de votre rue. »
Donc c'est le voyeurisme utilisé comme une arme de terreur psychologique? C'est profondément troublant?
Très troublant, oui.
Mais les données indiquent un troisième vecteur, et celui-ci dépasse largement le simple voyeurisme ou le blocage de sites web temporaires. Il est question de l'infiltration des systèmes de contrôle industriel, les fameux systèmes SCADA et les interfaces homme-machine qu'on appelle HMI. Les cibles recensées incluent surtout le secteur de l'énergie et de l'eau. Les sources citent notamment une usine de biogaz en Allemagne, un système de contrôle de chaudière industrielle au Canada, un concentrateur d'oxygène OS-6000 et la station de pompage d'eau de Kremenchug en Ukraine. Le terme SCADA revient en boucle, mais qu'est-ce que ça contrôle exactement, ce genre de système?
Un système SCADA, c'est littéralement le cerveau numérique d'une installation physique. Dans une usine de biogaz ou dans une station de pompage d'eau, ce sont des ordinateurs qui régulent l'ouverture des vannes, la température des immenses cuves et la pression des tuyaux. Tout ça en temps réel, sans la moindre intervention humaine.
D'accord. Et le HMI, c'est quoi alors?
L'interface homme-machine, le HMI, c'est simplement l'écran de contrôle, l'ordinateur sur lequel l'ingénieur surveille tous ses processus physiques. Donc quand un groupe de hackers infiltre un système SCADA, il ne vient pas juste voler des données ou bloquer un site web. Il prend le contrôle physique de la lourde machine.
Ah oui, donc ils peuvent vraiment casser des choses.
Absolument. Ils peuvent ouvrir une vanne de gaz à distance, arrêter une pompe à eau ou modifier les seuils de sécurité de l'installation pour créer un accident.
Ce qui explique pourquoi certaines régions géographiques sont beaucoup plus ciblées que d'autres par ce genre d'attaque poussée. Si on superpose toutes ces données, de la boulangerie paralysée par un DDoS à l'usine de biogaz infiltrée, il y a une carte qui clignote intensément, et c'est l'Europe.
Oui, l'Europe est sous le feu des projecteurs.
L'Europe, c'est l'épicentre absolu ce mois-ci. Mais si leur capacité de frappe est mondiale, puisqu'ils touchent sans problème le Canada ou le Japon, qu'est-ce qui fait de l'Europe la cible numéro un? Les actions politiques qui déclenchent ces foudres numériques doivent être super spécifiques.
elles le sont. La lecture des revendications établit vraiment une corrélation directe avec la politique étrangère et intérieure européenne. Prenons la Roumanie, par exemple. Elle subit un pilonnage massif et systématique de la part de No Name 05716 et le Dark Storm Team. La raison qu'ils invoquent ?
Le soutien logistique de Bucarest à l'Ukraine et sa position stratégique au sein de l'OTAN.
Et ça se manifeste comment concrètement ?
L'étendue de l'offensive est vaste. Ça va de la paralysie des autorités portuaires du Danube, qui est un point névralgique pour le transit des céréales ukrainiennes, jusqu'au fameux piratage des caméras de petits magasins. Et le détail qui souligne la dimension vraiment punitive, c'est que ces petits magasins ont été ciblés spécifiquement parce qu'ils affichaient des drapeaux ukrainiens dans leurs vitrines ou sur leurs réseaux sociaux. D'accord, donc c'est une sanction hyper ciblée pour avoir simplement affiché un symbole de solidarité. C'est fou.
Et le cas de l'Allemagne est encore plus chirurgical. Les rapports chronologiques montrent que Berlin a annoncé la signature d'un contrat de 90 millions d'euros pour livrer 50 000 drones d'attaque Shrike à l'Ukraine.
Les drones Shrike, oui.
Eh bien, la riposte des activistes a suivi en quelques heures à peine. Ils ont frappé le portail de recrutement du BKA, la police criminelle fédérale allemande. Ils ont perturbé les réseaux ferroviaires locaux et ils ont piraté en masse les caméras de circulation routière du pays.
Quelques heures, c'est glaçant de rapidité. Et je vois dans les notes que la Norvège a subi exactement le même genre de sort.
Oui, la Norvège offre un vrai cas d'école pour illustrer cette compression du temps entre l'acte politique et la sanction cybernétique. Le 23 août, le gouvernement norvégien confirme un accord de coopération bilatérale sur le développement de drones avec l'Ukraine via ce qu'on appelle le programme Nansen.
Et la sanction ?
Le jour même, le groupe Servir Killers a paralysé les systèmes d'authentification du service postal public norvégien Postenbring. L'infrastructure civile d'un pays entier est prise en otage, bloquant la distribution de colis et de courriers vitaux dans le seul but de contester cette décision diplomatique.
C'est du chantage pur. Mais la France, en revanche, elle présente une dynamique très différente dans ses documents d'août. Il ne s'agit pas du tout de représailles liées à des livraisons d'armes pour l'Ukraine. Le groupe Lunarisec a pris pour cible des plateformes étatiques françaises comme impots.gouv.fr et des services de santé comme car.fr. Et leurs revendications, elles n'ont rien à voir avec la guerre.
Non, pas du tout. Eux, ils ciblent un projet de loi européen très spécifique, le chat control. Et l'ironie de la situation, c'est qu'ils affirment agir pour le bien des citoyens français en signalant de force les failles de sécurité de l'État.
L'attaque comme service citoyen, en gros. Mais qu'est-ce que c'est que ce fameux projet de chat control pour déclencher une telle virulence chez Lunarisec ?
Le projet chat control, c'est une proposition législative, débattue au niveau européen, qui vise à obliger les fournisseurs de messagerie, comme WhatsApp ou Signal, à scanner automatiquement les communications privées de tous les utilisateurs pour détecter des contenus liés à l'exploitation sexuelle des enfants.
D'accord, l'objectif de base semble louable, la protection de l'enfance.
Oui, c'est l'objectif affiché. Mais les défenseurs de la vie privée et les activistes y voient surtout l'instauration d'une infrastructure de surveillance de masse, digne d'un roman dystopique, parce que ça brise techniquement le principe du chiffrement de bout en bout des messages. Et donc Lunarisec utilise cette controverse politique pour se draper dans l'habit du protecteur des libertés civiles. Il justifie l'attaque d'infrastructures fiscales ou médicales comme un acte de résistance citoyenne contre Big Brother.
D'accord, je comprends mieux la dimension idéologique. Et ce passage de la perturbation virtuelle un peu abstraite à la menace physique concrète, ça prend vraiment tout son sens quand on analyse de près leur méthode opérationnelle. Ce ne sont plus du tout de simples vandales numériques. Prenons l'exemple de cette chaudière industrielle au Canada, dont on a parlé tout à l'heure.
Oui, un exemple parfait.
Les documents montrent que les attaquants ne se sont pas contentés de prendre une petite capture d'écran pour se vanter de leur intrusion. Non, ils ont détaillé les paramètres exacts du système et affirmé avoir coupé la combustion à distance. Ils ont même listé le déclenchement d'alarmes critiques, un niveau d'eau dangereusement bas et une anomalie de pression dans la chambre de combustion. Comment ils parviennent à créer un tel dommage physique à distance ?
Eh bien, si on relie cela au contexte global, c'est par la manipulation de ce qu'on appelle les contrôleurs PID, qui sont intégrés au système SCADA. Un contrôleur PID, ça veut dire proportionnel intégral dérivé.
C'est-à-dire ?
Pour simplifier, ça fonctionne exactement comme le régulateur de vitesse d'une voiture, mais appliqué à des processus industriels ultra complexes. Ça calcule constamment la différence entre, disons, la température voulue et la valeur réelle, puis ça ajuste les valves de gaz ou d'eau en conséquence.
Ok, c'est le pilote automatique de l'usine.
Voilà. Et si un pirate accède à ce contrôleur PID, il peut falsifier ses calculs. Il peut tromper le système en lui faisant croire que la pression est trop basse, par exemple, forçant ainsi la machine physique à injecter encore plus de gaz, jusqu'à provoquer une surchauffe grave. Ou, dans le pire des cas, une explosion. Donc couper la combustion, comme au Canada, ça prouve qu'il maîtrise parfaitement les limites physiques et thermiques de l'installation.
C'est glaçant. Et parfois, le contrôle de ces systèmes s'accompagne en plus d'une guerre psychologique vraiment féroce. L'incident de la station de pompage d'eau de Kremenchug en Ukraine, c'est l'illustration parfaite de ça. Les pirates ont infiltré le réseau, ils ont observé précisément ces fameux contrôleurs PID qui peinaient à maintenir la pression de l'eau.
Et ils n'ont pas fait que saboter.
Non, justement, au lieu de se contenter de casser l'usine, ils ont fait une capture d'écran de l'interface de contrôle pour souligner, avec un sarcasme terrifiant, que les logiciels industriels ukrainiens étaient toujours programmés en langue russe. Ils ont transformé une faille de sécurité critique d'une infrastructure vitale en un puissant outil de moquerie et de propagande culturelle, histoire de tourner en dérision les politiques locales de dérussification.
C'est de la guerre de l'information couplée à de la cyberattaque. Et cette intimidation, elle devient d'ailleurs de plus en plus personnelle. C'est l'escalade la plus préoccupante de ce mois d'août. Le recours systématique au doxing, c'est-à-dire la publication de données privées à des fins purement malveillantes.
Ah oui, le doxing. On a vu ça avec la création de ce projet un peu dingue, le No Name 05716 Tribunal, c'est ça ?
Absolument. Ça marque un tournant majeur. L'objectif n'est plus l'État, entité abstraite, mais l'individu en chair et en os. Ils ont ciblé nommément un journaliste, Michael Martens, ainsi que de très hauts responsables de la police criminelle allemande comme Holger Münch, Thomas Planck et Peter Bader-Wieden.
C'est hyper précis.
Oui. Le groupe est même allé jusqu'à offrir des primes financières sur le réseau Tor pour obtenir des informations personnelles sur ces hommes et sur leurs familles.
C'est incroyable. Mais pour bien comprendre la gravité de cette menace, il faut peut-être expliquer brièvement ce qu'est le réseau Tor. Parce que mettre un contrat sur la tête d'un grand chef de la police allemande sur Internet, ça paraît absurde. La police devrait pouvoir remonter la piste de l'argent ou de la connexion instantanément, non ?
Dans un monde normal, oui. Mais pas sur le réseau Tor. C'est ce qui constitue la couche technique de ce qu'on appelle souvent le dark web. L'architecture de Tor fait rebondir chaque connexion de l'utilisateur à travers des milliers de relais cryptés répartis dans le monde entier.
Ce qui brouille les pistes.
Totalement. Ça rend la localisation de l'utilisateur ou de l'hébergeur du site virtuellement intraçable. En hébergeant leur tribunal sur ce réseau et en payant les fameuses primes en crypto-monnaie, les activistes garantissent un anonymat total à ceux qui fourniront les données privées des fonctionnaires de police, que ce soit l'adresse de leur domicile ou même l'école de leurs enfants.
C'est effrayant.
C'est une stratégie de terreur individuelle, pure et simple, conçue pour paralyser la chaîne de commandement adverse de l'intérieur, par la peur.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Face à un tel niveau de sophistication dans le harcèlement ciblé et le sabotage industriel, une question centrale émerge. Quel est le profil psychologique de ces acteurs ? Est-ce qu'il s'agit d'une simple volonté de créer du chaos gratuit parce qu'ils ont les compétences pour le faire ? Ou est-ce une stratégie de manipulation des masses soigneusement calibrée ? J'imagine que l'analyse de leur propre manifeste sur Telegram doit bien révéler leur moteur profond.
Tout à fait. Et l'analyse de ces communications permet de dégager trois piliers motivationnels bien distincts qui façonnent leur psychologie d'attaque. Le premier pilier, c'est la notion inébranlable de représailles punitives. Les groupes comme No Name 5716 ou Server Killers opèrent vraiment selon un code de justice expéditive.
Un peu en mode œil pour œil, dent pour dent.
C'est exactement ça. Chaque attaque est méticuleusement documentée par eux et justifiée par une action politique adverse spécifique. Un contrat de drone, un soutien financier, bam, une attaque. Ils ne se considèrent absolument pas comme des agresseurs criminels, mais comme des forces de rééquilibrage géopolitique. Ils rendent coup pour coup à ce qu'ils perçoivent comme des provocations occidentales.
C'est une justice où l'accusateur est aussi le juge et le bourreau numérique, quoi.
Voilà. Et le deuxième pilier motivationnel, lui, il crève l'écran à la lecture de leur message. C'est un complexe de supériorité abyssale qui s'exprime par un mépris total et affiché. Cela soulève une question importante sur leur perception de l'adversaire. Le groupe Shadowclaw Z44 en est l'exemple le plus frappant.
Ah oui, ceux qui qualifient l'Union européenne de clown.
Exactement. Dans leur communiqué officiel, ils désignent ouvertement les dirigeants de l'Union européenne comme un, je cite, « groupe de clowns ». Après avoir piraté des milliers de caméras DVR à travers tout le continent, ils se sont moqués publiquement de la naïveté pathétique des mesures de sécurité européennes.
Ils ont même poussé le sarcasme jusqu'à conseiller aux citoyens d'acheter des vélos, c'est ça, gars.
Oui. Ils prédisaient sarcastiquement que les prix de l'énergie et du carburant allaient tellement s'envoler à cause de l'incompétence de leur gouvernement qu'il valait mieux se mettre au vélo. C'est de la provocation pure.
Le trolling de haut niveau. Et le troisième pilier psychologique ?
Le troisième pilier, et sans doute le plus complexe à endiguer socialement, c'est le mythe du justicier. Des entités comme LunariSec ou SniperSec excellent dans la manipulation narrative. En s'attaquant à des projets très controversés dans l'opinion, comme la loi Chat Control dont on a parlé, ils s'arrogent le rôle de défenseurs du peuple face à une supposée tyrannie étatique.
Ils se font passer pour des Robins des Bois du numérique.
C'est ça. Cette posture morale, elle leur permet de légitimer aux yeux de certains des actes d'extorsion, du chantage et l'exposition sauvage de vulnérabilités systémiques. Ils arrivent à convaincre une partie de l'opinion publique que le chaos qu'ils génèrent est un mal nécessaire pour réveiller les consciences face aux dérives de la surveillance de masse.
Bon, pour résumer un peu cette plongée vertigineuse dans les données d'août 2026, on constate une mutation radicale du paysage cybernétique. L'activisme, ce n'est clairement plus une affaire de simple dégradation de pages web par des adolescents boutonneux. Ça a muté en un instrument de coercition géopolitique massif et hyper asymétrique. C'est un outil dont la portée permet, dans la même journée, de modifier la pression d'une chaudière industrielle en Canada, d'épier les habitudes des clients d'une pharmacie de quartier en Roumanie, de bloquer les trains en Allemagne et de menacer l'intégrité physique de fonctionnaires de police sur le dark web. Tout ça depuis l'anonymat impénétrable d'un simple canal Telegram.
Et la synthèse de toutes ces investigations met violemment en lumière la fragilité intrinsèque de nos sociétés hyper interconnectées. La numérisation massive de nos infrastructures a littéralement effacé la notion même de frontière physique ou de ligne de front classique.
Tout est devenu une ligne de front.
Tout à fait. Une signature au bas d'un traité d'armement dans une capitale, ça entraîne la prise de contrôle du thermostat d'une usine de biogaz ou de la caméra de sécurité d'un commerce de détail à l'autre bout de la planète en l'espace de quelques heures. Cette dépendance technologique civile offre aux acteurs étatiques et parastatiques une surface d'attaque totalement inépuisable.
Ce qui nous ramène à cette fameuse image du Far West numérique, mais un Far West où l'infrastructure même de la ville, le réseau d'eau, les feux de signalisation, tout ça peut se retourner contre ses propres habitants. Et cela laisse place à une réflexion vraiment troublante. Si ces groupuscules, par simple esprit de représailles géopolitiques, s'infiltrent avec une telle aisance dans les contrôleurs de pression d'une chaudière industrielle complexe ou traquent les familles de fonctionnaires de police pour intimider un gouvernement, que se passera-t-il le jour où ils décideront que le simple fait de regarder une caméra ou de faire passer un message sarcastique sur Telegram ne suffit plus à satisfaire leur soif de justice punitive ?
The cyber threat analyses you need to know about. Cyber decryption. We'll be talking about it on this channel very soon.
Orange, cyberdéfense.